Pompée ramena des deux mains sa toge sur son visage, et sans rien dire, ni rien faire d'indigne de lui, poussant seulement un gémissement, il endura fermement les coups. Il avait 59 ans et mourut le lendemain de son anniversaire. Extrait de la vie de Pompée par Plutarque, chapitre 79.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Cneius Pompeius Magnus est né en 106 avant Jésus-Christ. Celui que l'on a appelé le Grand Pompée est issu d'une famille de la haute noblesse romaine et il a fait ses premières armes sous les ordres de son père Strabo lors de ce que l'on appelle la guerre sociale, c'est-à-dire la guerre qui a opposé en 90-88 avant Jésus-Christ, les alliés de Rome avec Rome elle-même, afin que les habitants des cités alliées de Rome puissent acquérir le droit romain. Puis il s'est engagé également contre les partisans de Marius durant la première guerre civile qui a secoué la République romaine, celle qui a opposé Marius à Sylla. Il s'est particulièrement engagé dans des combats en Sicile, en Afrique, où il a obtenu des victoires contre les partisans de Marius, et c'est à ce moment-là qu'il a mérité le surnom de Magnus le Grand. De même, il mène entre 77 et 72 une lutte contre Sertorius, qui, en Espagne, avait créé un véritable royaume romain, mais dégagé de tout lien avec la métropole. Alors qu'il est âgé de 34 ans, eh bien, il est élu au consulat. Illégalement d'ailleurs, parce que il faut convenir qu'il n'avait pas suivi toutes les étapes de la carrière des honneurs, le fameux cursus honorum, mais, disons-le, la machine républicaine, les institutions de la République commençaient à fonctionner de plus en plus mal, et le premier siècle avant Jésus-Christ nous a habitués à effectivement voir les règles traditionnelles voler en éclat. En 67, on confie à Pompée un commandement extraordinaire. Il est chargé de la lutte contre les pirates. Effectivement, la Méditerranée était infestée de pirates qui trouvaient refuge sur les côtes sud de la Turquie, tout particulièrement. Et donc, ayant monté une flotte importante, Pompée remporte un succès rapide qui lui vaut, en 66, le commandement d'une guerre plus compliquée encore à mener, celle contre le roi du Pont, Mithridate. Les victoires qu'il remporte contre Mithridate lui permettent de réorganiser et de pacifier l'Orient. Effectivement, c'est véritablement à partir de 63 avant Jésus-Christ que Pompée, au nom de Rome, réorganise l'Orient de la province d'Asie jusqu'en Syrie et jusqu'en Judée. Effectivement, il va en particulier transformer la Syrie en province romaine et remettre de l'ordre en Judée. Il pénètre à Jérusalem, il va même violer le Saint des Saints du Temple, ce qui va lui valoir effectivement quelques critiques dans les milieux juifs, puisqu'il a fait un sacrilège en la matière, mais chez lui, sans doute que la curiosité l'a emporté sur le respect du Saint des Saints du Temple de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'il va conclure une alliance politique avec deux hommes, l'un connu par sa richesse, Crassus, et l'autre qui n'a pas encore véritablement marqué l'histoire, c'est le jeune Jules César, mais qui est un élément important de la vie politique à Rome. Cette alliance va avoir pour nom le premier triumvirat. Et il va se consolider, s'illustrer, par le mariage de Pompée avec Julia, la fille de César. Ce premier triumvirat n'a fonctionné qu'un temps. Effectivement, dans la mesure où César entreprend la conquête des Gaules et se couvre de gloire militaire, en remportant les victoires qui vont permettre à la Gaule de passer sous le contrôle de Rome, il est bien évident que l'ambition de César peut désormais s'afficher. Après les victoires de Pompée en Orient, eh bien, il y a un triomphateur des Gaules qui, effectivement, inquiète une partie du Sénat. Car Pompée représente plutôt les optimes, c'est-à-dire la société représentée par la noblesse romaine et qui a l'appui d'une très large partie des sénateurs. Alors que les soutiens de César et César lui-même représentent plutôt les populares, c'est-à-dire les membres plus modestes de la société romaine. Et César, qui pourtant sort d'une très grande famille romaine, se veut le représentant de la plèbe face au Sénat. Ensuite, il y a des événements qui vont distendre les liens du premier triumvirat. D'abord, la mort de la fille de Jules César qui avait épousé Pompée. D'ailleurs, ce fut, semble-t-il, un couple qui eut des liens affectifs indéniables. Or, elle meurt en 54. De même, Crassus, qui s'était cru un très grand général et qui avait monté une expédition en Orient contre les Parthes, au-delà de l'Euphrate, et qui est vaincu à la bataille de Carrhée. Et donc, désormais, il y a un face-à-face entre Pompée et César, qui, rentrant victorieux des Gaules, a indéniablement envie de jouer un rôle extrêmement important. Le Sénat, pour essayer de conjurer la menace de César, avait fait nommer à nouveau consul unique Pompée. Celui-ci, d'ailleurs, a profité de son consulat pour inaugurer le théâtre en pierre, premier théâtre en pierre à Rome, qu'il avait fait construire. En effet, la tradition romaine faisait que les théâtres ne devaient pas être en dur, mais qu'ils étaient finalement montés et démontés au gré des spectacles. Pompée a contourné cette tradition en faisant installer un temple de Vénus, au sommet du théâtre, ce qui a sacralisé le monument. Alors, désormais, il y a bien deux hommes face à face. D'un côté, donc, Pompée et le Sénat. De l'autre côté, Jules César. Celui-ci va franchir une rivière devenue célèbre, le Rubicon. Le Rubicon était une frontière entre la Gaule cisalpine et l'Italie. Or, il était strictement interdit, y compris à un général victorieux, de traverser avec ses troupes le Rubicon. Or, César va au-delà de cette interdiction et poursuit sa marche vers Rome avec ses légions. Pompée hésite à ce moment-là. Il cherche des conseils parmi des membres éminents du Sénat, comme par exemple Cicéron ou Caton d'Utique. Essaye de conseiller Pompée, faut-il sortir de la ville, aller à la rencontre de César, se battre contre lui. Finalement, il décide, sans toucher d'ailleurs au trésor du Sénat, eh bien, de quitter la ville pour former une armée et combattre César. Ce fut peut-être une erreur de Pompée, mais en tout cas, il passe en Grèce et il réussit à mettre sur pied une armée. Sauf que Jules César, étant rentré dans Rome, s'étant emparé du trésor du Sénat, dans le temple de Saturne, réussit à agrandir ses forces, passe lui-même en Grèce, et en août 48, les deux armées se font face à face à Pharsale. Pharsale est une victoire dans cette deuxième guerre civile entre Pompée et César, une victoire qui est évidemment vécu à la fois comme un succès par César, mais aussi comme une tragédie, puisque ce sont des Romains qui ont combattu d'autres Romains. Que reste-t-il à Pompée ? Il va essayer de se réfugier en Égypte, parce qu'effectivement, il a toujours eu des bonnes relations avec la dynastie des Ptolémées. Il s'y rend donc, mais en fait, alors qu'il est à peine arrivé en Égypte, les conseillers du roi Ptolémée XIV vont organiser le meurtre de Pompée. Ils espéraient ainsi s'attirer les bonnes grâces de César et avoir son soutien dans la lutte pour le pouvoir que le jeune Ptolémée XIV menait contre sa sœur Cléopâtre. En fait, cet acte, cet assassinat de Pompée n'a en rien valu aux Égyptiens la bienveillance de César. Parce que, voyez-vous, les Romains qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, ont pris l'habitude de se battre entre eux, ne supportent pas que d'autres, et en particulier des étrangers, viennent se mêler de leurs affaires. Ainsi, quand César est arrivé en Égypte, qu'on lui a offert la tête de Pompée, il a décidé finalement de punir les coupables, et les conseillers de Ptolémée XIV en ont fait les frais. Ptolémée XIV lui-même a été détrôné et éliminé. Ainsi, Jules César avait fait le choix de soutenir Cléopâtre.